is to the
Bonjour tout le monde. Enfin, spectaculaire que commence, émission numéro 207, mercredi 16 octobre 2019. Christophe Rollin, seul au micro, pas de Gérard aujourd'hui, mais je suis en excellente compagnie puisque se trouve avec moi Ali ainsi que Aurélie du duo Donia. Enfin non, il manque une personne du duo Donia, ce serait Rachel au violoncelle puisque Aurélie est à la clarinette, un duo qui va se produire la semaine prochaine pour un concert, La Fée Amoureuse, poème de Forur Farrokhzad. Je laisserai Ali davantage, mieux le prononcer, puisque c'est d'ailleurs lui qui présentera ce concert donné le mercredi 23 octobre 2019 à 18h à la salle L'Hirondelle, le salon L'Hirondelle, bâtiment Erato, c'est à l'université Lumière Lyon 2, c'est sur les quais, université Lyon 2 que vous connaissez. L'entrée est tout à fait libre. Alors, on va donc mieux savoir de quoi il s'agit avec nos deux invités, Aurélie ainsi qu'Ali, qui vont parler donc de cette poétesse iranienne, née, c'est pas tout à fait net, en 1934-35, décédée en 67, ça en revanche c'est très clair et net. Ils vont nous en parler comme tous les mercredis jusqu'à 10 ans. Ils vont nous en parler jusqu'à la fin de l'émission qui est à 15h, puisqu'après on cède la place au blues des Canucks. Donc commençons tout de suite avec un premier titre, Azir, extrait donc de ce concert, un poème de cette poétesse. Donc, enfin, un extrait. Ils vont davantage prononcer. Je maîtrise mal aujourd'hui. Gérald devrait être avec moi et je suis seul. Donc voilà, j'ai n'importe quoi. L'émission est sur radiocanu.org si vous écoutez sur internet, ou bien c'est le 102.2 de la bande FM à Lyon. Azir et ensuite le duo, disons une personne du duo et Ali pour présenter cette poétesse iranienne dont je ne me risque pas à redire le prénom.
هرگز به کام دل در آغوشت نگیرم، تویی آن آسمان صاف و روشن، من این کنج قفس مرغی اسیرم. پشت میله های سرد تیره نگاه حسرتم حیران بروید، در این فکرم که رستی پیش آید و من ناگه گشایم پر بسویم. در این فکرم که در یک لحظه قفلت از این زندان خاموش پار بگیرم، به چشم مرد زندان بان بخندم، کنارت زندگی از سر بگیرم. نگاه کودکی خندت بروید، چو من سر می کنم آواز شادی، لبش با بوسه می آید به سویم.
J'avais annoncé 5 secondes d'attention. Nous reprenons avec nos invités, Ali ainsi que Aurélie. J'allais dire Rachel. Non, c'est bien Aurélie. Vous êtes tous les deux. Vous serez sur scène. Voilà. Vous êtes maintenant avec nous sur Radio Canut, mais vous serez la semaine prochaine au salon qui porte ce beau nom, ce délicat nom, le salon L'Hirondelle. Bâtiment Erato, c'est l'université Lumière Lyon 2 qui se trouve, attention, hein, n'allez pas à Bron, c'est plutôt sur les quais. L'entrée est tout à fait libre, c'est le mercredi donc 23 octobre à 18h, vous serez tous deux présents
quai pour Claude Bernard.
Le quai Claude Bernard, voilà, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit sur les quais ou j'ai pas assez indiqué de quel quai il s'agissait. Donc Laurent est avec nous aussi, peut-être pas, parlera-t-il. En tout cas, pour l'instant, pour commencer, moi j'arrête. Je vous laisse la parole, Ali ainsi qu'Aurélie, pour vous présenter peut-être vous-même et éventuellement peut-être pourrais-je poser cette question aujourd'hui, c'est comment êtes-vous venu, je vais essayer de le refaire, comment êtes-vous venu à cette poétesse Farrokhzad? Mais non, j'y arrive certainement très mal. Aurélie, peut-être vous qui êtes clarinettiste, et puis Ali qui assurerait la partie de présentation lors de ce concert, je vous en prie, comment vous distribuez-vous la parole et comment allez-vous donc vous présenter vous-même et peut-être commencer un peu à brosser le portrait de cette poétesse décédée trop jeune, hélas. Aurélie, allez, c'est à vous comme ça.
Oui, donc moi je suis musicienne professionnelle, je suis chanteuse et clarinettiste. Et principalement dans mon travail, j'aime beaucoup mettre en musique des poèmes dans toutes les langues. Et en fait, j'ai rencontré Ali en apprenant le persan, puisque c'était mon premier professeur. Et comme il est lui aussi très épris de poésie, je lui ai demandé de m'aider une première fois à faire un projet musical sur de la poésie persane, parce que le persan est une langue magnifique. Et on avait commencé sur des quatrains de Khayyam, que nous faisons ensemble maintenant, lui à la déclamation et moi à la musique, et qui constituait la première partie de ce projet sur la poésie persane qu'on fait en partenariat avec l'Université de Lyon. Et donc la première partie était au mois de mai et concernait la poésie ancienne plutôt, donc puisque Khayyam c'est 11e siècle. Et là nous en sommes donc au 23 octobre pour la partie sur la poésie contemporaine. Avec Forour Farrokhzad, je l'ai bien
dit. Ah
ouais,
moi. Ouais, c'est pas tout comme ça que moi je le faisais, c'est très très bien.
J'ai travaillé pendant des mois pour le dire comme il faut. Née en 34 et morte en 37, donc oui, une vie très courte et très intense. 67. Donc une vie très courte et très très intense, 5 recueils d'écrits, aussi des films auxquels elle a participé, soit en tant qu'actrice, soit en tant que monteuse, et celui qu'elle a réalisé, qui était diffusé hier, qui est encore diffusé aujourd'hui au festival du film Lumière de Lyon, La Maison est Noire. Et donc nous, ce qu'on va présenter, c'est donc plutôt sa poésie que j'ai mise en musique, donc clarinette, voix et violoncelle, puisque Rachel nous rejoindra dès ce week-end pour cette aventure. Donc avec des poèmes choisis parmi ces 5 recueils. Donc le premier, c'est Captive, dont on vient d'entendre en chanson Captive, justement, le poème qui a le même nom que le recueil, Asir, en persan, donc. Le mur, la rébellion, une autre naissance, et le dernier recueil qui a été publié à titre posthume, croyons à l'approche de la saison froide.
Et qui reste incomplète.
Oui.
En fait. Oui.
Voilà.
Heureusement.
Voilà. Oui.
Du coup, tu veux finir peut-être la présentation de...
Ah bah, Ali, vous avez pris la parole, alors vous allez la conserver. On reviendra sur... moi, j'ai d'autres choses à vous demander, Aurélie. Mais Ali, puisque vous commencez à vous exprimer, peut-être pourriez-vous terminer cette présentation de cette poétesse, puis vous présenter un peu vous-même.
Oui, en fait, je peux ajouter aussi que cette poétesse faisait partie des premières femmes écrivaines en Iran qui ont pris la parole pour parler de la femme, de ses souffrances, de son histoire, de ses enjeux dans une société, on peut dire, patriarcale, si j'ose dire. Et après, c'est vrai aussi que c'est une femme qui s'est contribuée à une lutte contre... en fait, les discriminations sociales et sexistes. Du coup, même dans ses écritures, dans ses entretiens, dans sa poésie même, elle cherchait le droit, en fait, à l'égalité des droits entre hommes et femmes dans une société qui, depuis bien des années, avait mis des barrières sur certains aspects de la vie d'une femme. Question de voile, question de poids de la famille dans cette société est bien présente dans l'œuvre de Farrokh Farrokhzad. Et ce qui m'intéresse dans l'œuvre de Farrokhzad, c'est sa sensibilité, on peut dire même son amour vers l'humanité. C'est pour ça qu'on est aujourd'hui ici, parce qu'on veut bien partager et rendre hommage à cette poétesse et bien partager et échanger ce qu'on a trouvé de beau, de plus extraordinaire chez cette femme qui a laissé, en fait, qui nous a laissé assez...
Toute la lumière de sa personne qu'elle a portée autour d'elle à travers ses vers. Et c'est d'ailleurs ce que veut dire son prénom.
Exactement. Furur, ou la version plus complète, Furur Zaman, ça veut dire la lumière... ou l'étincelle du temps. Et du coup, en fait, je pense que c'est un prénom assez significatif pour tout ce qu'elle a fait pendant ces années de vie, 32 ans de vie, assez condensées, on peut dire. Et peut-être on peut même parler des thèmes qui sont abordés dans la poésie de Farrokh, en fait, qui sont... en lien avec sa propre vie.
Oui, parce que souvent, surtout les trois premiers recueils ont beaucoup retracé ce qu'elle vivait. Et donc, là, celui qu'on a entendu, Captive, c'est justement tout ce sentiment de captivité dans les carcans familiaux. Quand elle était captive de sa famille, quand elle a dû lutter pour épouser Parviz Shapur, c'est ça ?
Un cousin, et très jeune.
Voilà. Et ensuite, quand elle s'est rendue compte que c'était pas la vie qu'elle a voulu, se libérer de cette prison qu'elle avait elle-même créée,
un divorce,
en croyant trouver le bonheur dans cette famille, s'affranchir en divorçant, et pour cela être obligée d'abandonner son fils.
Tout à fait.
C'est le sens de ce poème, et c'était justement tous les barreaux qu'elle rencontrait dans sa vie pour se réaliser elle-même en tant qu'artiste, en tant que femme. Et que toutes ces... comment dire... ses compatriotes, ses camarades féminines rencontraient à tous les niveaux. Donc c'est pas seulement en plus libérer juste la femme du carcan, elle a montré aussi que, à quel point c'était important, mais pour tout un chacun, de se réaliser soi-même. Et ça, c'est une leçon qui vaut pour tout le monde.
Et aussi, moi je trouve pertinent en fait mentionner qu'on était parti avec le projet Khayyam sur la poésie d'Omar Khayyam.
Roubaïyat, c'est ça les...
Exactement.
Roubaïyat.
Roubaïyat, les quatre ans. Exactement de cette personne, ce personnage de littérature persane. C'est un grand homme de 11e siècle, un grand mathématicien, astronome, qui a laissé en fait après une sorte de mystère. Parce que ces quatrains n'ont jamais été publiés de son vivant. Et du coup, on avait assez de problèmes. On a mis du temps pour trouver en fait de bonnes traductions et des bonnes versions en fait.
Savoir lesquels étaient vraiment les siens et lesquels étaient ceux de.
On n'est jamais sûr, mais bon. On a suivi nos corps. Et du coup, ce qui nous a menés jusqu'à Forour, je pense, c'est cette envie de dire la vérité. C'est la lutte, en fait, contre des obstacles qui sont communs entre Khayyam et Forour. Chacun à sa manière, bien évidemment. Mais...
Ce qu'ils ont de commun, c'est l'amour de la vie sur Terre. Que ça passe par l'amour du corps, l'amour et le respect du corps, alors que souvent, principalement, les religions nous exhortent plutôt à dire non, votre corps, ne vous laissez pas emporter par tout ce qu'il aime bien. Pensez plutôt au ciel.
Les plaisirs terrestres.
Voilà, les plaisirs terrestres.
Il faut s'en
garder. Khayyam le disait souvent entre le fait d'être en bonne compagnie, de boire du vin, de profiter de la vie parce qu'elle passe vite et que. Voilà, il y a quand même de bonnes choses à vivre sur cette planète. Forour le rejoint complètement dans des poèmes comme La vie, justement, Zendegi, et Rouyehok, sur Terre, où elle déclame vraiment avec une force l'amour qu'elle a de la vie, mais pas seulement dans ses plaisirs. En plus, c'est vraiment de l'amour inconditionnel. C'est bon, des fois, c'est de la merde, des fois, c'est génial, des fois, on s'ennuie, tout simplement, mais j'aime. J'aime la vie et j'aime ce corps, je suis fière, je suis contente d'être là. Moi, je m'en fous du ciel, les étoiles, elles sont là pour m'admirer, parce que moi, j'aime ce corps. Et ça, c'était quelque chose de très fort. Et même si on n'est pas religieux, on peut avoir des petits problèmes avec cette thématique, parce que c'est pas toujours facile, hein, mais elle avait cette force de vie qui est assez exceptionnelle et elle transcrit dans ses vers avec cette force qu'elle nous communique. Quand on l'a dit, on se dit... Ah bah pourquoi pas moi, quoi.
Est-ce qu'il peut être question de provocation, que ce soit elle ou bien Omar Khayyam? Est-ce qu'il y a de la provocation ou en fait peut-être, mais ça n'est pas une volonté initiale d'eux-mêmes, ils ne souhaitaient pas provoquer. Enfin, comment dire, dans les faits, c'est certainement ce qui s'est produit. La publication de son premier recueil, je crois, à Forour, Farouksad, c'est compliqué. C'est cette première édition qui sort et vous l'avez dit un instant, Ali, ces quatrains n'ont pas été publiés de son vivant. Donc c'était provocant, non, pour leur époque.
Bien sûr. Moi, je peux parler, en fait, je parle brièvement de l'époque de Khayyam pour dire que à son époque, en fait, c'était pas évident de parler contre des stéréotypes et contre tout ce qui était religieux, tout ce qui était des règles fixées par l'institution et en fait les autorités. Et du coup, Khayyam, il n'était pas seul dans sa façon de parler et d'aborder ces sujets, il y avait des philosophes, des écrivains et des scientifiques à son époque qui étaient soit cramés, en fait, carrément, ou qui était écartelé. Donc, c'est 11e siècle, il faut voir dans son contexte qu'il n'avait pas vraiment la possibilité de mettre en question directement et publier son recueil assez provocateur, en fait, si j'ose dire. C'est après, même, on peut dire, j'ai déjà lu ça, que les premiers quatrains qu'on a découverts de Khayyam, qu'on a attribués à Khayyam, on les a trouvés dans les ouvrages qui datent de 2 siècles après la mort de Khayyam, ce qui montre qu'il y avait toujours des problèmes à cette époque. Même ce qui, en fait, je pense, a continué jusqu'à l'époque de Fourour, même maintenant, ces poètes, en fait, ils ont essayé d'aller contre le courant, et ils avaient un esprit anarchiste, en fait, dans leur démarche. On peut
par le fait qu'ils étaient sincères, tout simplement.
Exactement. Et pour le cas de Fourour, en fait, je commence, après je laisse Aurélie peut-être pour ajouter ce qu'elle a ressenti dans l'œuvre de Fourour. En fait, je peux dire que Fourour Farrokhzad, en fait, vient d'une famille, et on dit que tous les membres de famille Farrokhzad étaient connus pour être francs et sincères. Et il y a notamment son frère Fereydoun Farrokhzad, qui était philosophe, écrivain et animateur d'émissions à la télé, qui était très célèbre à l'époque, qui a été assassiné en Allemagne à cause de justement cette franchise et à cause du fait qu'il n'était pas toujours fidèle à tel ou tel parti soi-disant politique. Voilà. Donc, on peut dire que, par exemple, Fourour était plutôt proche, puisqu'elle était jeune, en fait, elle faisait partie de la jeune génération. Elle était plus proche de parti communiste à l'époque. Et bien sûr, elle cherchait dans sa courant féminisme, elle cherchait l'égalité, et elle n'avait pas vraiment envie de se venger des hommes, en fait, pour toute l'histoire on peut dire, société patriarcale ou phallocentrique.
Moi, ce que je propose, Aurélie, avant de continuer sur votre partie de cette réponse à la question que je posais, c'est ça, y a-t-il provocation chez les deux, une provocation commune? Vous l'avez lancé tout à l'heure, Aurélie, donc c'est pour ça que je me permets de l'attraper. Zendegi, oui. Vous l'avez lancé, donc on l'a, il est prêt, il est dans la boîte. Écoutons-le, histoire de nous ménager à nous, de vous ménager à vous également, auditeurs, auditrices. Une pause musicale, puisque nous parlons bien d'un concert, donné la semaine prochaine, mercredi 23 octobre, qui porte un titre, La Fée Amoureuse. Nous avons avec nous Ali et Aurélie. Ce concert aura lieu le mercredi 23 octobre à 18h. C'est sur les quais de l'Université Lyon 2, bâtiment Erato. J'aime bien à chaque fois reprendre ces termes, le salon L'Hirondelle. Donc écoutons Zendegi, qui sera donné au début du concert ou au milieu, puisque vous l'évoquerez ensuite. Il y a 15 poèmes qui ont été choisis avec certainement plusieurs thématiques. Donc ménageons-nous une pause, écoutons ce Zendegi. Il y aura encore d'autres titres à venir, même je crois une déclamation aussi d'ici la fin d'émission. 14h30, c'est très bien. Zendegi, et puis nous poursuivons ensuite avec nos invités pour parler de cette poétesse. Est-ce que je vais me risquer? Non, je vais tricher. Ali, rappelez-nous encore son nom, s'il vous plaît.
Fourour Farrokhzad.
آه ای زندگی من masto la brisam na be fekram ke reshte por ekonam na baronam ke asto bo grisam hame zarote jesme khaki man asto eshe regarda suzan آسمان های صاف را مانند که لب و لبز باده روزند با هزاران جوانه می خوانند بوته نسترن سرود تو را هر نسیمی که می وزد در باد می رساند من تو را در تو جست و جو کردم نه در آن خوابهای رویایی در دست تو سخت کاویدم پر شدم ز زیبایی پر شدم از ترانه های سیاه پر شدم از ترانه های سپید از هزاران شراره های نیاز از هزاران جرقه های امید حیف از آن روزها که من با خشم به تو چون دشمنی نظر کردم پوچ پنداشتم فریب تو رو زدو ماندم تو رو هدر کردم غافل از آن که تو به جای من همچو آبی روان که در گذرم گم شده در غبار شوم زوال ره تاریک مرگ می سپرم آه ای زندگی من آینه ام از تو چشمم
Ça se termine de manière un peu abrupte. C'était Zendegi, chanté à l'instant par notre invitée Aurélie, avec également Aurélie à la clarinette. Il faudra qu'elle nous expose comment être parvenue à cela. C'est toujours pour ce concert qui a lieu mercredi 23 octobre prochain à l'Université Lyon 2 sur les quais. N'allez pas à Bron, auditeurs, auditrices. L'entrée est libre à 18h, donc allez-y. Présentation assurée par Ali. Et donc là, je vous avais lancé cette question. Ali a commencé à répondre sur ces deux figures. Vous l'avez très bien dit tout à l'heure, Aurélie. Ce sont des projets qui sont en rapport l'un et l'autre. Les quatrains d'Omar Rayam, les roubayats avec donc ces poèmes de Forour Farosad. C'est compliqué, c'est un A qui est un.
C'est mieux cette
ouais,
fois.
C'est mieux cette fois-ci. Donc les choses sont un peu en rapport et j'avais lancé est-ce qu'on peut les considérer comme des provocateurs. Donc c'est peut-être un peu réducteur ce terme-là. Ali avait commencé à répondre. Est-ce que vous avez également des éléments à apporter, Aurélie ?
Il y a une partie non, parce qu'elle voulait juste être libre de parler. En tant que femme, alors que les femmes n'avaient pas le droit de dire quoi que ce soit, elle a osé dire ses émotions, ses sentiments, à révéler l'intimité d'une femme, ce qui était parfaitement inconvenant. Donc ça a été provoquant, mais juste parce qu'elle voulait être sincère, elle voulait être libre. Mais par contre, dans la chanson qu'on vient d'entendre, les deux derniers vers le sont quand même un petit peu provoquants, parce que là c'est directement... un peu dans la tronche de la religion, puisqu'elle dit « Oh vie, je prendrai tellement de plaisir de toi que je provoquerai la colère de ton Dieu. Ça, je pense que ça les franchement provoque. Surtout, bon, voilà, en Iran à cette époque, c'était déjà quand même bien religieux aussi. Donc ça, c'était direct. Mais sinon, dans beaucoup de ces poèmes, c'était la simple expression de l'intimité, de la relation avec le bien-aimé ou de ce qu'elle pouvait ressentir à tous les niveaux, qui était provoquant pour les gens. Et des fois, elle le disait directement, comme dans le poème Le baiser, Bossé, qui sera dans le concert aussi. Elle décrit juste, voilà, il y avait la lumière du péché dans son regard. Il souriait et à la fin du poème, ils se font juste un baiser, les lèvres se rejoignent. Pour nous, c'est assez chaste. Mais pour elle, enfin, en Iran à l'époque...
on parle des années 50, ça, plus ou moins. Elle commence à écrire à 20 ans.
C'était son premier, celui-là est dans son premier recueil, Captive. Elle avait 17 ans quand elle l'a publié, donc c'était les débuts des années 50.
51, le publie, né en 34 ou 35, hein, voilà. c'est pas très net. Oui, c'est ça, ça lui fait 16 ans, 17 ans, et c'est... Ouais. C'est drôlement jeune.
Oui, et elle, d'après ce qu'ils disent très souvent dans tout ce qu'on trouve de documentation autour de sa vie, elle savait qu'elle n'allait pas vivre très longtemps, donc elle y est allée absolument à fond.
Elle a commencé jeune, pour terminer également jeune. J'ai une traduction sous les yeux qui n'est peut-être pas la traduction que vous aurez pour ce spectacle. C'est le dernier vers, un baiser sans flamma entre deux lèvres. C'est intéressant cette image d'une flamme. Pourtant, l'Iran à cette époque, politiquement, c'est absolument terrible. Ça change, mais peut-être pas dans un sens davantage de liberté pour les citoyens, les sujets. C'est ça. Ça passe d'une monarchie, enfin du moins une forme d'autocratie, empire, c'est ça, et ça devient donc normalement une forme de république, mais en fait non. Enfin, c'est on passe du Shah d'Iran, c'est ça, je crois. Non, Ali, vous avez des connaissances sur cette période. Je crois que c'est les années 40, 50, que coup d'État qui est assuré, mais ce coup d'État, bref, du moins, les choses ne changent pas trop pour le peuple.
Le coup d'État a eu lieu à l'année 53, je pense, si je ne dis pas de bêtises. Mais c'est effectivement en 1979 qu'on a eu la révolution islamique.
J'étais trop tôt, moi, alors. C'était trop tôt, là.
Mais
il y avait déjà eu un premier changement de régime.
Bien sûr. On a eu la première révolution constitutionnelle, bien avant, qui avait promis de bons changements au pays, mais qui a mal tourné, en fait. Ça a fait beaucoup de guerre, en fait, je veux dire plutôt des
conflits, des tensions,
des conflits, des tensions,
de révolte, enfin, ou des moments, comment appeler ça, des moments armés. Ouais, ce ne sont pas non plus des batailles, c'est
des émeutes.
Oui, voilà, exactement, c'est ça. Merci Aurélie d'avoir fait des émeutes dans les rues.
Manifestations
également. Mais alors, manifestations, attention, qui sont tout de même engagées, c'est ça, comme actuellement vers Hong Kong, c'est ça, où il y avait des morts, hein, je crois, non, c'était c'est violent, non, ou pas trop, je me trompe avec 79. Ou là davantage, c'est plus la répression est davantage et plus sanglante.
Oui, moi, j'ai pas vécu l'époque de la révolution. Il faut le préciser. Mais d'après ce que j'ai entendu et ce que j'ai lu, bien sûr, il n'y avait pas la liberté totale pour le peuple, surtout au niveau politique. Du coup, surtout les dernières années de la monarchie en Iran, on avait imposé au peuple de choisir il y avait seulement un parti politique créé par le roi, qui était appelé Apocalypse. Donc, on n'avait plus de... Oui. On n'avait plus de partis, en fait, qu'on avait comme Today, Parti communiste, Parti libéral, partis, par exemple, religieux.
Et plus du tout d'opposants, quoi, et plus rien.
Voilà, du coup, ça a donné lieu à certains rassemblements de forces opposantes. Et ça, à ce moment-là, en 1979, pendant ces années-là, que les communistes et les, je peux dire, les nationalistes iraniens et les religieux ont pris en fait la, comment on dit ça, le, ils ont pris la lutte ensemble contre le pouvoir d'un roi qui voulait pas écouter la voix de son peuple entièrement.
Et donc là, Ali, cette présentation que vous nous faites à l'instant, je vous en remercie. Auditeurs, auditrices, cette présentation, ce n'est pas ce que vous ferez pendant le concert. Vous, c'est davantage une forme de, comment nommer cela, de, d'explication, d'interprétation sur, donc, je l'ai indiqué tout à l'heure, 15 titres, c'est ça Aurélie, enfin 15 poèmes que vous avez choisis. C'est vous-même qui les avez choisis avec Rachel ou c'est,
Je les ai choisis...
Toute seule,
ouais.
Autocratiquement, vous voilà. Avez choisi 15 poèmes qui seront donc chantés en persan, mm-hmm. c'est bien ça le terme, la langue, c'est bien le, oui. c'est le persan. Comment dire, le peut-on être persan, hein? Je crois que c'est la question que se posait dans les lettres persanes de Montesquieu, Rika, Ouzbek, enfin bref, oui. Donc vous voulez chanter en persan. Est-ce qu'une traduction sera donc donnée par vous, Ali, c'est ça? Ou il y aura oui. des textes disponibles ou c'est,
Oui, en fait, ce que je vais essayer, c'est de donner des explications contextuelles. En fait, j'explique le contexte de chaque chanson. Avant que les musiciennes, en fait, Aurélie et Rachel, prennent la parole. Et, du coup, moi, j'accompagne les spectateurs dans ce voyage. Et je donne effectivement quelques éléments. Et à la fin, si besoin, je vais donner des déclamations et des traductions en français. Bien évidemment.
Et alors Aurélie, tout à l'heure je parlais de sortilège, en fait je n'ai pas été très attentif, la clarinette dans l'extrait, dans les extraits que nous avons écoutés, n'était pas en même temps que la voix, c'est ça, c'est vous, il n'y aura pas d'enregistrement, c'est seul sur scène toutes les deux, Rachel et vous Aurélie, vous assurez la partie elle de violoncelle, vous de clarinette, et quand vous interrompez pour chanter, enfin il n'y a donc plus de clarinette, c'est comme ça,
ça
ou
dépend.
Il y a...
oui, ça dépend parce que tout dépend les pistes, des fois je rajoute la clarinette avec un peu de matériel, des fois il y a aussi d'autres bruits, d'autres sons que j'ai enregistrés ailleurs.
Et sur scène, comment cela, voilà. Quelle forme cela prendra-t-il?
Donc, voilà, j'ai ampli, boucle, etc. Donc, on sera les deux à jouer et chanter ensemble.
Elle aussi,
avec...
en persan.
Ouais, un petit peu, oui. C'est vrai. Et donc, avec toute cette ambiance ajoutée de sons, de choses préenregistrées, parce que... Voilà, j'ai pas pu faire autrement justement.
Mais c'est très bien, ça peut rajouter à tout à l'embellissement ou à la mise en forme de ces poèmes, parce qu'à la base ce sont bien des poèmes.
Oui.
La partie donc de musique est composée par vous-même également, c'est
oui,
ça?
Oui, c'est ça. Et donc si on donne juste avant chaque poème des précisions, c'est que comme il y a beaucoup de textes, si on donnait à chaque fois toutes les traductions avant, ça serait très 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 long.
Ouais. La musique, comment est-ce que vous l'avez composée? À partir de quoi? La lecture des textes, beaucoup, l'humeur dans laquelle vous étiez, ou alors là, on l'a pas encore évoqué, donc cette mort tragique, on l'a peut-être dit, elle meurt à 32 ans, c'est ça? Elle meurt très jeune. Un accident de voiture, vous souhaitez en dire plus peut-être, Aurélie? Ali? Oui, c'est pas très très net cet accident. Il y en a eu un autre quelques temps auparavant,
une semaine avant
Aurélie.
Oui, en fait, moi, j'ai entendu effectivement qu'il y avait des rumeurs. Il y a certains, même parmi les proches à Forour, il y a certains qui pensent qu'il y avait un accident. On peut dire pas vraiment accident, mais une sorte de assassinat ou on peut dire accident évoqué en fait. Provoqué, pardon. Oui. Après, il y a certains qui pensent que c'était en fait un accident de route parce que elle roulait à toute vitesse.
Ceinture, parce qu'à l'époque, c'était
elle au volant. Mes connaissances sur la société iranienne ne sont pas très, très bonnes, mais le permis de conduire ou non, c'est très récemment, c'est en Arabie Saoudite qu'il a été accordé, je crois, en 2016 ou 17, il me semble, aux femmes. Là, non, en Iran, on pouvait conduire en 60.
C'était elle
qui était au volant et qui avait son permis, ou alors non, justement, c'était encore une forme de provocation ou de c'était
normal.
En règle, mais pas de ceinture, ça en revanche.
Ouais.
Et donc voilà, je vous demandais Aurélie comment composer cette musique. On a évoqué tout à l'heure hors antenne, nous parlions de ce court métrage qu'elle a réalisé, qui est disponible sur une plateforme de vidéos sur internet. Il y a quand même des éléments dans sa vie qui sont terribles, non? Alors pour composer cette musique. Enfin, je ne sais pas, je vous lance comme ça des pistes. En fait, vous pouvez tout à fait me répondre. Non, j'ai procédé tout à fait autrement. C'était avec telle et telle chose. Je vous en prie d'ailleurs, dites-moi comment vous avez composé Zendegi, par exemple, puisqu'on les a écoutés, ou Asir en début d'émission. Vous rappelez-vous
Oui, parce que bon, j'ai commencé par lire son œuvre complète en français pour vraiment entrer dans le sujet. Et c'est pas la première chose que j'ai faite. En attendant de recevoir le livre, j'ai regardé La Maison est Noire.
Son court-métrage, donc.
J'ai commencé par le plus fort, le
qui
plus...
Qui porte, dites dans deux mots.
C'est... Donc, elle filme les lépreux à la léproserie de Tabriz, dans le but, entre autres, d'améliorer leurs conditions de vie. Mais il y avait aussi... ce qui est très important, c'est... Le leitmotiv de leur film qui explique beaucoup de choses, parce que c'était certes à propos des lépreux, mais ça a une visée beaucoup plus générale sur la vie humaine, en fait. Donc leur leitmotiv, c'était « La laideur sévit dans le monde, il y en aurait davantage si l'homme fermait les yeux. Mais l'homme trouve des remèdes. Sur cet écran, vous verrez maintenant des images d'une laideur, d'une douleur que la justice humaine ne peut pas se permettre d'ignorer. » Voilà, donc c'est vraiment, c'est très très beau. Remédier à ce fléau, aider à guérir cette maladie et aider ces malades ont été la motivation et l'espoir des créateurs de ce film.
60 61 ou 58, enfin du moins c'est...
63 je crois. 62.
Oui, elle meurt en 67, c'est ça.
Elle
donc,
est allée
elle
en
a encore un peu de temps.
Et ouais. elle a fait ce film à ce moment-là. Et donc en fait c'est aussi généralement dans la vie que justement la laideur, la souffrance, la douleur existent. Donc certes, d'abord les lépreux de cette léproserie et en même temps aussi partout dans le monde. Ce qui compte aussi, les inégalités dont on souffre, pas seulement hommes-femmes, mais aussi d'un pays à l'autre, quand on est migrant, etc. Toute autre forme d'inégalité et de souffrance. Et donc j'ai commencé par ça.
20 minutes, c'est court, hein, mais...
C'est extrêmement intense et c'est magnifique.
C'est
parce
choquant.
Qu'à travers cette souffrance et cette laideur, elle a filmé ça d'une façon tellement juste. On y voit la beauté de l'âme humaine.
Et il n'y a pas de voix off, hein. J'en ai vu quelques instants, c'est plutôt des poèmes, c'est ça?
Oui, voilà, c'est ça.
Ce sont des extraits de Torah, en fait, je pense, l'Ancien Testament, qu'elle avait choisi elle-même. Et le film, elle a réalisé en collaboration avec son mari Ebrahim Golestan, qui est un réalisateur assez connu en Iran.
Vous dites mari, c'est intéressant. Je crois qu'en fait c'est son conjoint, son amant, puisqu'elle vit avec lui. J'ai lu ça dans une introduction quelque part, en union libre.
Toujours été marié à Madame Golestan, lui. Hein
et voilà, ça qui est terrible. Elle vit en union libre avec quelqu'un qui était marié, mon Dieu, en 60, ça, même en France aussi, ça aurait été quand même.
Vous avez raison, parce que Golestan même maintenant, récemment en fait, dans un documentaire, il a bien précisé qu'il n'était pas marié, mais qu'avec sa femme à lui, tous les trois ils faisaient des voyages. Du coup, sa femme à Golestan était bien au courant et elle avait courage ou cette, comment dire ça,
elle serrait les dents avec... et puis elle aimait pas trop la voir quand elle débarquait à la maison.
Oui. Mais en tout cas, c'est vrai que Golestan faisait éloge à sa femme et également à Forour, parce qu'il disait que, bien évidemment, ça lui a beaucoup apporté. Et après la mort à Forour, il n'est plus peut-être aussi créatif, aussi. Il est d'une certaine manière décédé.
Ouais, c'est son propre fils dans le documentaire qui disait, mais à partir du moment qu'elle est morte, lui il est mort aussi. Il était toujours là, hein, il y avait toujours son corps, mais intérieurement il était mort. Hein. Ouais. Il était plus vivant. Il disait, quand j'étais avec mon père, j'avais plus l'impression d'être vraiment avec lui. Donc ça a été quelque chose, leur relation. Hein. Ouais.
Je vous avais demandé tout à l'heure, la conversation a continué son fil, c'est très bien, j'avais tenté cette question. Comment avez-vous composé ces différentes musiques, notamment celle de Asil? Donc vous avez dit, pour commencer, c'est comme ça que je procède de manière générale. Vous aviez également fait cela pour Omariam, la lecture donc intégrale des œuvres. Et puis le court-métrage, alors pour son époque, l'11e siècle, il n'y avait pas de court-métrage, donc c'était très bien. Donc ensuite le court-métrage, et puis après voilà, vous étiez en train de poursuivre.
Oui, donc après j'ai choisi des poèmes déjà en français, et j'ai commencé à lire en persan pour voir comment ça sonnait, etc. Ensuite j'ai voulu tout de suite commencer par Le Cadeau. Il fait partie du dernier recueil, et c'est le poème qui est écrit sur sa tombe. Et c'est pour la faire ressortir des ténèbres, du fin fond des ténèbres, du repos éternel, et l'amener jusqu'à nous, puisque c'est ce qu'elle dit aussi dans le poème. Mon ami, si tu viens chez moi, amène une lampe et une petite fenêtre pour que je puisse voir l'affluence de la rue heureuse. Je me suis dit, moi, je vais me pointer avec, pareil, une lampe, une fenêtre sur laquelle je vais proposer aux gens un regard sur son œuvre, et elle, un regard à nouveau sur nous, qui sommes toujours là. Et ensuite, j'ai choisi d'abord les poèmes qui évoquent beaucoup l'oiseau, parce que l'oiseau, c'était cette liberté, le symbole de cette liberté qui lui était si chère. Donc avec Asir d'abord, ou l'oiseau qu'on a entendu, l'imitation et la clarinette, où elle parle justement de cet oiseau en cage qu'elle est elle-même, enfermée derrière les barreaux dont on a parlé tout à l'heure. Ensuite, il y a le poème court « L'oiseau n'était qu'un oiseau ». Donc le vrai oiseau, ah là là, quelle vie super il mène, mais bon, en même temps, ça n'est qu'un oiseau. Donc voilà, est-ce que cette liberté parfaite n'est pas quelque part une illusion aussi pour l'humain? Et en dernier, l'oiseau mourra, qui évoquait sa prémonition de sa mort à elle et de celle de son frère, puisqu'elle l'a su très longtemps avant qu'elle allait mourir, et qu'elle allait mourir très tôt, et même avant de partir... pour les cieux, justement, elle avait même dit à sa mère, voilà, des fois ça arrive plus tôt que prévu, je sens que moi là, je vais partir. Et elle avait aussi écrit une longue lettre à son frère pour lui dire, ouais, toi aussi, je le sens bien, et je sais que moi, je vais pas rester longtemps. Et donc ensuite, c'est tout un voyage donc, qui part de l'extrémité de la nuit, comme elle dit dans le poème Le Cadeau, je parle de l'extrémité des ténèbres, je parle de l'extrémité de la nuit. Tout un voyage dans la vie, donc avec des épisodes de sa vie, le compagnon, donc la vie intime d'une femme avec le bien-aimé, ce qu'elle ressentait pour l'amant avec Moj, par exemple, l'évocation aussi de la solitude, parce que c'est un thème qui revient souvent chez elle, avec la solitude de la lune, parce que des fois elle l'exprimait directement, des fois elle pouvait déguiser les choses dans les éléments naturels, ici avec la lune, ou alors l'intimité partagée avec l'amant dans la baignade, parce qu'elle déguise l'amant en source fraîche et elle se baigne dedans, voilà, pour arriver jusqu'à quelque chose de très lumineux comme la vie ou sur terre, où elle célèbre justement cette vie malgré la souffrance, c'est-à-dire qu'elle l'aime inconditionnellement dans toute sa beauté, malgré son absurdité, comme elle le dit elle-même. L'évocation aussi des ténèbres qu'elle traversait, parce qu'elle elle était ce qu'on appelle maintenant bipolaire. Donc elle avait des phases très 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 sombres, où elle était vraiment très mal. Quand elle était jeune, il disait qu'elle s'enfermait même dans un placard, toute seule, dans le noir. Et quand elle en sortait, épisode euphorique, c'est là aussi où elle se ramenait avec des poèmes magnifiques, parce que c'est dans ces périodes-là où elle était le plus créative. Et ensuite, on arrive direct, petit à petit, Yekshab, l'oiseau mourra jusqu'au sommeil, le dernier, le poème Le Sommeil, pour retourner à ce sommeil, qu'il soit d'une nuit ou éternel, le repos. Et pour partir au pays rose des fées de l'oubli.
Vous n'avez pas souhaité choisir le péché, non? Dans le recueil Le Mur, je crois, un poème qui a grandement fait scandale à son époque. Il y a une raison particulière ou non? C'était que le choix de 15, et puis d'après ce que vous indiquez, c'est quand même un choix très réfléchi et c'est un très beau choix. Ce sont de beaux poèmes. Je ne les connais pas tous, mais j'en connais quelques-uns. La baignade, je l'avais également lu. Donc non, le péché...
Non, il m'a peut-être juste moins parlé que les autres sur le moment, parce que j'écoute mon cœur, donc je dis celui-là, oui. Quitte à ce que des fois, en le lisant, relisant, j'entends déjà des choses, comment je vais faire, soit un univers, soit... Voilà, et donc peut-être que le péché m'a moins parlé.
J'ai le début de L'Oiseau mourra dans une autre traduction, je suppose, sous les yeux. J'ai le cœur serré. J'ai le cœur serré. Ça paraît rien, mais quand même. Enfin voilà, débuter un poème comme ça, c'est... Alors ce n'est pas le dernier. Vous avez dit le dernier, c'est le sommeil,
oui.
C'est ça que vous avez choisi.
L'oiseau mourra, c'est l'avant-dernier, donc. Ouais.
Donc un chemin dans ces 15 poèmes que vous avez donc plus ou moins tracé à l'instant. Yek Chab est prêt, que faisons-nous, le temps file, mais le blues des canuts n'est pas encore là, donc peut-être qu'on va déborder éventuellement. On écoute Yek Chab, peut-être quelques notes, peut-être pas en intégralité. Auditeurs, auditrices, rappelez-vous, nous sommes bien en train de parler de ce concert à venir mercredi prochain, il y a encore du temps, le 23 octobre. Voilà, c'est ça que je recherchais tout à l'heure. Concert à venir, La Fée Amoureuse. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone peut-être ou des coordonnées? Oui, il y a un site, je vois là sur un flyer. Pour plus d'informations, aureliesqd.com. Alors, il n'y a pas d'accent sur Internet. A-U-R-E-L-I-E. Et d'ailleurs, il n'y a pas de répété. S-E-U-D-E.com. Université Lumière, Lyon 2. Je crois également que sur leur site, je mettrai tout cela, auditeurs, auditrices, sur le blog. Mais pour l'instant, ça capote un peu depuis quelques jours. Donc, je mettrai tous les éléments. Mais à défaut, enfin, il me semble avoir repéré que sur le site lui-même de Lyon 2, sur je ne sais plus quelle page, je ne sais plus quelle partie, il y a bien des précisions sur ce concert du mercredi 23 octobre, 18h. Attention, horaire 18h. Entrée libre. Allez-y. Enfin, en plus, la météo la semaine prochaine, je pense qu'il fera encore plus froid que maintenant. Peut-être même plus mauvais. Donc, à 18h, il fera peut-être même nuit. Allez goûter la lumière, le soleil, le bonheur de ces poèmes. Écoutons Yek Chab et puis nous continuerons pour terminer sur encore les poèmes de cette grande poétesse. Et Ali, aidez-moi son prénom, allez-y, on va le faire parce que moi j'y parviens pas.
Oui, je vais essayer. Forour et Farorzat.
یک شب زمورای سیاهی ها چون نختری به سوی تو می آیم بر بال بالهای جهان پیما شادان به جست و جوی تو می آیم سر تا به پا حرارت و سرمستی چون روزهای دلکش تابستان پر می کنم برای تو دامان را از لاله های وحشی کوهستان یک شمز حرقه یکی به درکوبم در کنج سینه قلب تو می لرزد چون در گشوده شدن من بیتاب در بازوان گرم تو می لرزد دیگر در آن دقایق مستی بخش در چشم من گریز نخوایدی چون کودکان نگاه خموشم را با شرم در ستیز نخواهیدید یک شب چو نام من به زبان آری میخوانمت به عالم رویا بر مچهای یاد تو میدقسم چون دختران وحشی دریای یک شب لبان تشنه من باشد در آتش لبان تو
Et voilà, on entend encore Aurélie et on n'entend plus Aurélie. Vous pourrez l'entendre sur son site aureliesqd.com. Il y a également un Wix site qui est très très bien fait, qui renvoie une piste à un SoundCloud où on peut trouver donc tous ces 15 poèmes enregistrés. Mais attention, n'allez pas vous dire, auditeurs, auditrices, que oh bah ça y est, l'affaire est faite, hein, j'écoute ça sur le site et puis c'est très bien. Mais non! Mais non, vous manquerez tout ce que Ali pourrait dire, et puis vous manquerez toute la partie de Rachel au violoncelle, ouais. Et puis vous manquerez le vivant, quoi. Non, le spectacle vivant, c'est pas appuyé sur play sur Internet, c'est pas possible de faire ça. Aurélie, donc nous vous avons avec nous encore, puisque à l'instant vous étiez dans Yek Chab. Traduction peut-être de ce titre.
Une nuit. Et elle d'accord. dit à son amant, une nuit, je viendrai te chercher.
C'est au milieu du spectacle, au milieu de ce concert de mercredi 23 octobre prochain, ou ce sera plus vers la fin davantage. Vers la fin nous aussi, auditeurs, auditrices, 14h59, il faudrait terminer, mais comme on ne voit pas le blues des canuts arriver, ben allez, on va déborder, tant pis. Aurélie, quel mot de la fin, Ali, comment terminer? Qu'est-ce que faire? Lire quelques vers en persan, ou bien les lire en français, ou bien des, je sais pas, des éléments, ce qui vous passerait par la tête, des annonces. Moi, auditeur, auditrice, j'ai pas d'annonce à faire. Il y a des pièces un peu partout. L'opéra se termine de Guillaume Tell. Il se termine le 17, donc c'est demain. Voilà, c'est tout, hein. Il y a différentes choses au Célestin, c'est très bien. Mais marqué les 23 octobre, ce sera une date unique. Si je vois Pascal qui arrive. Vite, terminons. Donc, date unique, 23 octobre. Farouk Sad. Je vous en prie, Aurélie.
Eh bien, moi, je vous invite, oui, à venir nombreux et à surtout découvrir le concert en entier avec la partie violoncelle qui va changer énormément de choses et qui amène aussi une puissance et une beauté, parce que Rachel est une très, très bonne violoncelliste avec une âme très riche. Donc, ça va être vraiment un très beau concert. Voilà, merci beaucoup.
On va écouter du violoncelle, c'est notre générique, le générique non plus Cora, c'est terminé depuis quelques temps, le générique également composé par Gérald, Les Vendanges de l'Amour. Écoutez, auditeurs, cette belle ligne de violoncelle. Les invités ne peuvent pas l'entendre, c'est très dommage. L'émission se termine, Ali peut-être un dernier mot. Donc voilà, auditeurs, auditrices, c'est très bien, vous n'aurez pas eu de déclamation. Il faudra y aller, il faudra la mériter, il faudra vous rendre le 23 octobre, mercredi prochain à 18h sur les quais Claude Bernard, alors plus précisément le salon L'Hirondelle dans le bâtiment Erato. Ali peut-être, je ne sais pas.
Tout simplement, je vous remercie Christophe de nous avoir accueillis chaleureusement. Et nous remercions Laurent de sa présence et son aide. Et je vous invite tout le monde.
Là, pour le coup, c'est pas un mot en l'air, hein. C'est l'entrée est libre. Donc, vous êtes invité par Ali. Allez-y, mercredi voilà. 23 octobre prochain, 18h. Exactement. Laurent, faudra qu'on se revoie pour parler de. Vous avez dit, c'est ACFI.
L'ACFI, ouais. ACFI. L'Association culturelle franco-iranienne.
Auditeur, auditrice, le rendez-vous est pris. Pour l'instant, c'est Blues des Canuts à 15h02 qui commence avec un poil de retard, excusez-nous, hein, Pascal, ainsi que Billy the Kid, Yolan. Je crois que c'est encore question de Jesse James dans son Blues des Canuts hebdomadaire. Ensuite, 16h, relâche, pas d'émission, bande continue. 17h, on n'arrête pas le prog. 18h, Mayday. 19h, Canu Info. Et puis, c'est tout. Retrouvez-nous. Pas la semaine prochaine, 23 octobre, peut-être qu'on ira à Lyon 2 ou peut-être qu'on sera ailleurs. Non plus le 30 octobre, on fait relâche. En revanche, retrouvez-nous bien le 6 novembre pour de la danse ou bien un musée des Beaux-Arts. On ne sait pas encore, on se laisse libre. Philippe Torreton, peut-être aussi un peu plus tard au mois de novembre. Enfin, nous verrons. Et l'ACFI, ça, Laurent, rendez-vous pris pour janvier, décembre. On verra, on trouvera ça. Auditeurs, auditrices, bonne fin d'après-midi à vous, à l'écoute des bandes de Radio Canu ou bien des émissions. Et puis, portez-vous bien jusqu'à la semaine prochaine ou une fois suivante. Au revoir tout le monde, bye bye. Au revoir les invités, merci à vous.
Merci. Au revoir, merci.